Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. À chaque émission, je reçois parents, jeunes, professionnels, afin d'aborder une thématique liée à la parentalité. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Elvira. Comment tu vas ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va, merci. Amal ?
Bonjour, ça va, tu vas bien ?
Ouais, et toi ? Super. Notre chroniqueur Barberiche.
Comment tu vas ?
Très bien, merci. Et puis on aura Fatih qui viendra nous rejoindre un peu plus tard. Est-ce que, avant de lancer la thématique, vous voulez bien vous présenter ? Amal.
Alors, bonjour à tous. Amal Laïdeb, je suis maman de 3 enfants et je suis conseillère socio-éducative.
Et tu es maman de 3 enfants. Quel âge ont-ils ?
Alors, Neza, 15 ans, Iman, 6 ans et Jout qui vient de fêter ses 3 ans.
Ok, super. Merci Amal. Comment tu vas Elvira ?
Ça va très bien et toi ?
Très contente de te revoir ici.
Oui, moi aussi, contente d'être là.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Alors, je suis Elvira Douala, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Donc, j'accompagne les hommes, les femmes pour leur épanouissement sexuel et dans leur vie amoureuse. Voilà.
Eh bien, merci de revenir sur le plateau. Tu es la bienvenue ici. Barberiche, on te connaît, mais est-ce que tu veux bien te représenter ?
Barberiche, chroniqueur de cette magnifique émission, papa de 3 enfants et cofondateur d'une entité qui s'appelle SOPA.
Merci Barberiche. Alors il est temps d'annoncer la thématique. Aujourd'hui nous allons aborder une thématique très profonde et universelle. Comment élever ses enfants quand on est soi-même marqué par les blessures de l'enfance ou du passé ? Nous parlerons des conséquences, nous essayons d'aborder peut-être quelques pistes de solutions et vous allez très vite comprendre pourquoi la présence d'Elvira va être très importante aujourd'hui. Alors, déjà, dans un premier temps, quand on dit blessure de l'enfance ou du passé, à quoi vous pensez ? Qu'est-ce que vous avez en tête ?
Ben moi, déjà, dans un premier temps, je pense que c'est des choses qui nous ont marquées négativement. Parce que si on dit blessure, une blessure, c'est quelque chose de négatif.
Oui.
Donc, voilà moi, ma définition simple et efficace, j'espère.
Oui, elle l'est. Amal ?
Pour moi, les blessures, bah, c'est les violences qu'on a pu subir enfant, le fait de, que les parents n'aient pas pu poser des mots ou qu'ils n'aient pas mis en place des choses pour pouvoir nous guérir.
Mm-hmm. Elvira ?
Alors, moi, je vais être obligée de mettre ma petite casquette de thérapeute pour vous répondre. Les blessures de l'enfance, qu'est-ce que c'est ? Donc, quand on est enfant, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de manger, on a besoin d'être éduqué, on a besoin d'être blanchi, etc. Et on a aussi besoin de ce qu'on appelle de la nourriture affective. Et la nourriture affective, c'est les parents qui nous la donnent. Donc, par des encouragements, par des mots d'amour, par tout ce qui vous nourrit émotionnellement. Et quand on est enfant, parfois, soit la nourriture affective, elle n'est pas adaptée, soit elle est manquante. Ce qui crée donc des blessures de l'enfance. Donc, il n'y a pas forcément de violence dans les blessures de l'enfance. Il n'y a pas forcément de mots durs, etc. C'est le manque de nourriture affective ou la nourriture affective qui n'est pas adaptée. Il y a, selon un livre, je ne sais pas si vous connaissez les 5 blessures de l'enfance, ouais, de Lise Bourbeau, donc il y a 5 blessures qui sont identifiées. Donc il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et en fonction des blessures qu'on a, donc en fonction de ce qu'on a vécu pendant l'enfance, on a des comportements qu'on a étant adulte pour pouvoir se protéger nous-mêmes. Voilà.
Ouais, merci Elvira. Du coup, là, on a parlé des blessures de l'enfance. Et si je vous disais le mot trauma, quelle émotion, qu'est-ce que ça vous évoque, les traumatismes ?
Bah, je pense que je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Les traumatismes, c'est les violences, les non-dits parfois aussi. Je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre.
Ouais, ouais. Mais c'est déjà pas mal. Ouais. Anne, Elvira. Ah, Elvira à la fin.
Bah, déjà, trauma, je trouve que c'est un mot à la mode. Ce n'est pas forcément un mot que nous, on utilisait. C'est un mot qu'on emploie beaucoup sur les réseaux sociaux. Trauma, après traumatisme, oui, ça reste dans le champ lexical de la douleur. Au même titre que tout à l'heure, tu me posais la question pour les blessures. quelque chose qui nous traumatise, c'est quelque chose qu'on a subi dans le passé, mais qui résonne encore aujourd'hui.
Mmh.
Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et là, sur le sujet, c'est que ce sont des choses qu'on a vécues enfant ou adolescent, en tout cas dans son passé, qui résonnent encore aujourd'hui et qui malheureusement viennent nous parasiter dans notre éducation. Du coup, comme là, c'est la thématique.
Elvira.
Bah, je pense qu'il a très, très bien résumé. Ouais.
le T'as trauma, volé ta casquette sous ta chaise.
Voilà. Le trauma, c'est vraiment quelque chose, c'est un événement traumatique, quelque chose de très fort émotionnellement, qui arrive à un moment donné et qui résonne encore sur plusieurs années. Voilà.
Et du coup, l'idée justement de se réunir aujourd'hui, c'était aussi d'évoquer bah, justement quand on a été soi-même victime d'un traumatisme dans l'enfance, l'adolescence ou en tant que jeune adulte, comment essayer de briser la chaîne, si on peut dire ça comme ça, quand on devient soi-même parent. Comment on devient parent, comment on éduque et comment on reste vigilant à ces traumatismes ou ces blessures. Des fois, on a travaillé dessus et des fois, pas du tout. Et pour autant, quand on devient parent, bah, on est dans la transmission. Du coup, peut-être qu'avant de commencer, est-ce que Amal, tu veux bien nous raconter rapidement ton histoire?
Oui.
Ça nous donnera de la matière pour justement lancer les échanges juste derrière.
Très bien. Alors moi, j'ai été maman à l'âge de 23 ans, mais je suis une enfant qui allait avoir un enfant. Je n'ai pas été forcément accompagnée, hein, dû à l'abandon de ma famille. Déjà, durant la grossesse, ça a été très, très compliqué parce que, bah, on a énormément besoin de notre maman, hein, pour pouvoir être accompagnée. L'accueil de ma fille a été incroyable. Hein. Moi, dans les moments de difficulté durant ma grossesse, les coups qu'elle me donnait, c'était vraiment... Enfin, je me projetais en me disant, mais dans pas longtemps, en fait, je vais pouvoir la prendre dans mes bras. Mais j'ai eu un sentiment, c'est le sentiment de peur. Je me dis, voilà, c'est une fille. J'ai peur qu'il lui arrive ce qui m'est arrivé. Ça a été très, très compliqué. J'ai développé même le syndrome d'hypervigilance. Hein. Moi, je pouvais être posée chez moi et entendre ma fille hurler alors qu'elle dormait à point fermé, quoi. Donc, c'est vrai que même la moindre chute, j'essayais d'éviter qu'elle, qu'elle tombe. Et c'est vrai.
Tu as dit, ouais. J'ai une fille et je ne voulais absolument pas qu'il lui arrive ce qui m'est arrivé. Est-ce que... T'es d'accord de témoigner sur ce qu'il t'est arrivé à toi en tant que petite fille, du coup?
Bien sûr. Alors moi, j'ai été abusée enfant de l'âge de 3 ans et demi jusqu'à l'âge de 12 ans. En premier temps par mon oncle, le frère à mon père, et par mon aîné. Donc ça a développé plusieurs traumas. J'ai quitté le cocon familial à l'âge de 19 ans parce que dans ma tête, je ne pouvais pas honorer mon père, quoi. J'étais pas vierge et je ne pouvais pas en fait, l'honorer. Donc, j'ai pris la décision de prendre ma liberté. Je me suis installée. Donc, au départ, je vivais en colocation, mais après, je me suis installée très vite avec mon premier partenaire. J'ai eu une grossesse assez compliquée. J'ai subi des violences de mon partenaire, même étant enceinte. Mais j'ai accueilli ma petite fille. Mais c'est vrai que quand j'ai eu ma fille et qu'il a commencé à faire des violences devant ma fille, ça a été le tilt. Je me suis dit, il est hors de question que ce petit être, en fait, subisse les violences avec moi quelque part. Donc, après 7 ans de violences conjugales, j'ai fini par le quitter. Ça a été très, très compliqué. Moi, il m'a laissé avec énormément de dettes. Hein. Procédure d'expulsion. Pendant un an, il n'avait pas payé de DF. Donc, je me suis retrouvée sans électricité. Je perds mon travail. Je suis convoquée à l'école. On me dit que ma fille ne va pas très bien, qu'on va me faire un signalement. Le directeur de l'école me dit, voilà, ben, en fait, pourquoi est-ce que vous ne retournez pas chez votre famille? Et puis moi, là, je m'effondre. Je dis, voilà, moi, je ne vais pas chez ma famille. J'ai quitté le cocon familial parce que j'ai été abusée enfant. Donc là, le directeur de l'école va me dire, bon, écoutez, madame, je prends note de tout ce que vous me dites. Par contre, il va falloir aller déposer plainte, quoi. Donc, je rentre chez moi. Moi, je suis effondrée parce que je me dis, purée, quoi, j'ai déjà perdu ma famille. Mmh. Et puis là, on va me retirer mon bébé, quoi. C'est ma seule famille. Et je me souviens de ce jour-là, je m'effondre au sol. Je me mets à pleurer. Et puis, je vois ma fille, 3 ans, partir aux toilettes, prendre du rouleau de papier toilette. Et puis, elle m'essuie mes larmes. Maman... C'est tout, pas pleure, pas pleure. Et là, il y a une rage, en fait, une rage qui s'éveille en moi. Et je me dis, mais je vais me battre pour toi, en fait. Mmh. Je vais me battre pour toi. Ils m'ont abandonnée, c'est pas grave. Et je me souviendrai toute ma vie, je prie, je demande au Seigneur, je dis, s'il te plaît, enfin, enlève-moi tout ce que tu veux, retire-moi la vue, retire-moi tout, mais me retire pas, quoi, mon bébé. Et donc, il faut savoir que moi, juste avant, j'avais quand même appelé l'assistante sociale du bailleur, j'avais quand même monté mon dossier parce que j'avais déjà fait des dépôts de plainte. Hein. Et puis là, au bout d'une semaine, elle me contacte en me disant, madame, vous voulez habiter au rez-de-chaussée, au quatrième étage? Et puis moi, je me dis, qu'est-ce que, faut pas jouer avec mes nerfs, là. Parce que là, je suis... enfin, la dernière solution, c'est d'aller au foyer, quoi, de jeune maman. Elle me dit, non, c'est bon, on vous a fait un fonds de solidarité de logement. Là, on vient de vous épurer la dette. Durant 3 mois, vous n'avez payé que 15 euros de loyer. Ça faisait en tout 45 euros. Et ils m'ont payé la caution, le déménageur. Elle me dit, madame, pendant 3 ans... vous allez être sous notre protection. Donc, j'ai eu quand même une mesure éducative. Hein, donc, j'ai été suivie par l'aide sociale à l'enfance. Donc, ça va m'aider, mais ça va être très compliqué parce qu'entre-temps aussi, bah, ma fille ne va pas très bien parce qu'elle ne voit pas son père. Alors, moi, au départ, je vais quand même empêcher son père de la voir parce que je me dis, voilà, il va lui faire du mal, il va la retourner contre moi et puis finalement, peut-être que je vais me retrouver seule, etc. Donc, mais l'aide sociale à l'enfance va m'accompagner, va me guider, tout en sachant que le papa ne va pas forcément respecter en fait toutes ces mesures éducatives. Hein, il ne se présentera pas devant la juge aux enfants. Et moi, je vais me retrouver avec toute cette responsabilité et parfois avec le doigt pointé comme si j'étais une mauvaise mère. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs où j'ai une TSF qui va m'accompagner par moment, donc qui va venir une fois par semaine à la maison, qui va faire des recettes avec moi, qui va m'accompagner avec ma fille. Quelque part, elle va remplacer en fait ce manque de famille, ce manque d'accompagnement normalement que tu es censé avoir avec ta famille. Mais c'est vrai que je vais avoir énormément peur que ma fille se fasse mal, que ma fille se fasse...
C'est pour ça que tu dis que finalement, tu es dans l'hypervigilance
constante
avec ta fille.
Constante.
Anne, Elvira, quand là, du coup, vous entendez ce témoignage, est-ce que justement, vous pouvez comprendre ce sentiment de peur quand on t'annonce ta grossesse et puis de surcroît que c'est une fille? Anne, il est bouche bée par contre, témoignage.
Ouais, non, ça me... C'est compliqué. C'est compliqué parce que... Tu vois, j'ai entendu ton histoire déjà l'autre fois.
Ouais.
Et de la réécouter, entendre encore aujourd'hui, ça me fatigue. Et c'est pour ça qu'avec Aminata, on voulait aborder cette thématique. Parce que malheureusement, moi, je suis d'avis que... Même si, bien entendu, tout le monde n'a pas vécu ce que tu as vécu, que y a beaucoup de nos familles qui nous bousillent. Et quand je t'entends, je me dis, et je sais que t'es pas la seule, en fait.
Ah ouais.
Tu vois, et merci déjà d'en parler, parce que c'est important. Ouais. C'est important d'en parler, parce que y en a beaucoup qui, malheureusement, n'ont pas cette force-là et qui vont vivre avec ce poids éternel du coup toute leur vie. Et
quand tu dis il y a beaucoup de familles qui bousillent,
ouais.
tu développes?
Ouais parce que moi j'ai publié ça il y a pas longtemps sur mon feed, c'est est-ce que les traumas se transmettent en héritage?
Ah, je vois Elvira qui hoche la tête. Elvira, on t'écoute.
En fait, parce que, comment dire, bien entendu qu'on ne pardonne pas ce que font des bourreaux, comme dans ton cas, ou même par exemple lorsqu'on est victime de violences physiques. Mais en fait, il y a toujours une cause. Et j'ai cette impression que la cause vient de la génération d'avant, qui vient encore de la génération d'avant. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je me pose cette question de est-ce que les traumas ne se transmettent pas en héritage?
Alors c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc il m'est arrivé 2 fois, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré plusieurs fois, où j'avais des femmes qui souffraient de vaginisme ou de troubles du désir. Donc dans ces cas-là, on cherche toujours un petit peu la cause. Et parfois, quand on creuse, on se rend compte qu'elles ont des peurs, elles ont des traumas qui ne leur appartiennent pas. Par exemple, j'avais une femme que j'accompagnais qui souffrait de vaginisme, et quand on remontait...
Tu peux expliquer vaginisme ?
Ah oui, pardon. Donc le vaginisme, c'est la contraction des muscles qui entourent le vagin, ce qui empêche la pénétration. Donc au moment où il y a acte, au moment où il y a possibilité de pénétration, le vagin se contracte et on ne peut pas avoir de relation sexuelle. Donc c'est pas quelque chose qui est... c'est psychique en fait, c'est vraiment de l'appréhension, c'est des traumas, etc. Et quand on cherche un petit peu quelle est l'origine du trauma, on se rend compte que parfois c'est la grand-mère qui a été violée, et qui a transmis ça à sa fille, et qui, sur des générations et des générations, et finalement on se retrouve avec une lignée de femmes qui ont peur des hommes. Donc oui, oui, ça existe.
Ce qui me fait rebondir sur ton témoignage, Amal, est-ce que du coup, t'as eu cette crainte du sexe opposé? Que ça soit cette figure paternelle, parce que l'oncle, il représente plutôt l'adulte, mais tu parles aussi d'un frère aîné. Donc, est-ce que du coup, ça, tu développes une certaine méfiance?
Alors, moi, déjà, il faut savoir, je suis partie à 19 ans parce que je savais, quand je dis je ne pouvais pas honorer mon père, déjà, un maghrébin, c'était mort. C'est-à-dire qu'un maghrébin, alors pas forcément... Un maghrébin, ce n'était pas possible. Ça veut dire que moi, je me suis retrouvée parfois, je ne voulais pas aller dans les boucheries halal parce que je ne voulais pas qu'il regarde ma fille, en fait. Parce que j'avais toute cette crainte, toute cette peur. Donc, je me suis dit, bon, déjà, je ne suis pas vierge. Je n'ai pas envie de me mettre avec un arabe. Donc, en fait, c'est mieux, je me casse. En fait,
parce que tu as fait un transfert, toi, par exemple, identitaire. C'est-à-dire l'homme arabe représente un danger.
Voilà, exactement. Et c'est ce qui a causé mon départ. Et c'est resté longtemps comme ça. Alors, j'ai fait la paix aujourd'hui. Hein, j'ai plus du tout de problème avec les Maghrébins. Mais c'est vrai que ça a été longtemps un problème et une crainte, une peur. Quoi.
Ce qui est un peu logique. Ouais. Pour un enfant, en fait, tout ce qui va ressembler à l'agresseur, si on peut dire ça comme ça, va être anxiogène.
Exactement. Exactement.
Après, c'est vrai que quand on est enfant, tout ce qui représente la figure masculine, c'est le père, c'est les oncles, c'est vraiment le grand-père. Et quand on a cette figure masculine qui est finalement ancrée, qui n'est pas forcément bonne, on a tendance à associer du coup, les hommes au danger. Donc là, en l'occurrence, vous, c'était les hommes maghrébins. Ouais. Et c'est quelque chose... Mais en tout cas, dans votre histoire, moi, je retrouve beaucoup, beaucoup de signes de trauma liés à l'inceste. Ouais. Comme on en a parlé tout à l'heure en off. Ouais. C'est possible que je
vous le dise. Bien sûr, bien sûr.
Les addictions.
Ouais.
L'hypervigilance. Ouais. Les cauchemars, je suppose.
Oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont des signes, parfois même des rhumatismes, peut-être avoir mal au dos, mal à la nuque, des céphalées,
tout ça. Exactement,
voilà. Et finalement, quand on s'en sort, c'est pas forcément pour nous. Là, je vous ai entendu tout à l'heure, c'était par rapport à votre fille, parce que vous avez eu cette rage de vous en sortir, mais pas pour vous, mais pour votre enfant. Et ça arrive très, très, très souvent, ça.
Ouais.
En tout cas, moi, je... Bravo.
Ah, merci.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment bravo.
De résilience. Ouais. Amal, du coup, en plus d'être maman, tu es professionnelle de l'enfance.
Ouais.
Dans Raconte ta parentalité, il me semble que tu avais dit que justement, est né en toi ce besoin de travailler avec les enfants pour pouvoir un petit peu les protéger.
Exactement, et
être là, en tout cas.
Exactement.
Quels sont les défis que tu rencontres dans l'éducation de tes enfants, de tes propres enfants, mais aussi celle des enfants qui t'entourent dans ton milieu professionnel? Est-ce que tu rencontres des défis ou est-ce qu'il y a des situations qui te mettent... Est-ce que tu es aussi dans l'hypervigilance quand tu es dans ton domaine professionnel ou pas?
Alors, en fait, moi, l'hypervigilance, elle est constante. Ça veut dire que même quand je ne suis pas avec mes enfants ou avec les enfants ou autres, je suis en hypervigilance.
Ok, tout le temps.
Et en plus, moi, du coup, ma famille m'a abandonnée. Donc, il faut que je fasse attention à moi-même. Je me souviens d'un jour où on me demande de faire une colo de ski. J'ai jamais fait de ski de ma vie, etc. Donc, je vais faire une colo de ski. Et je me suis privée de skier parce que j'avais peur de me fracasser et de me dire, mais qui va s'occuper de ma fille, en fait? Tu vois, donc en fait, l'hypervigilance, elle a été constante. Donc rien qu'au niveau du regard, de l'environnement, je regarde ce qu'il y a autour, etc. Ça pouvait être, par exemple, on allait au parc de la Roseraie. Je ne laissais pas les enfants partir jouer tant que je n'avais pas vérifié la pelouse, parce qu'on peut trouver une seringue, parce qu'on peut trouver ceci. Et puis j'informe les enfants, voilà, on fait très attention. Si vous trouvez quelque chose par terre, vous venez me voir. Donc Après, c'est vrai que cette hypervigilance, ça m'a rendue malade. J'en ai eu carrément des problèmes au cœur parce que ben, ça fatigue. Mmh, ça fatigue d'être constamment en hypervigilance. Moi, quand on m'a fait la mise en sécurité, on m'a fait une mise en sécurité. Le papa ne sait pas où j'habite, mais pendant très longtemps, quand je rentre dans mon appart, je vérifie les placards, je vérifie sous le lit. Je dors, je mets quand même un couteau sous mon lit. Parce que je me dis, s'il arrive, il va me tuer. Parce que pendant 7 ans, il m'a dit, je vais te tuer et ni ton père ni ta mère vont venir te chercher. Et puis, il y a ce truc-là de dire, mais moi, si... Pendant longtemps, moi, je suis restée seule avec Neza et je me posais cette question. Qu'est-ce qui va advenir de nous, en fait? C'est quoi le futur? Comment ça va se passer? Et puis, si j'ai un partenaire, qui va venir... Enfin, à qui il va aller demander ma main? Qui sera présent à mon mariage? Ça a été vraiment très, très, très douloureux pour moi. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cet état d'esprit parce que j'ai pu reconstruire quelque chose de beau, de safe. Et je suis beaucoup plus apaisée aujourd'hui, mais ça m'a demandé beaucoup de temps. Beaucoup de temps.
On ose imaginer. Ouais. Déjà, c'est multifactoriel dans ton cas. Donc, il y a énormément de choses à travailler. C'est pour ça qu'on te remercie d'être là et de témoigner. Parce qu'on sait que les auditeurs potentiels, bah déjà, en termes de violence conjugale, il y en a énormément et forcément dans les femmes qui nous écoutent, il y en a qui sont victimes. Et l'inceste, il y a un gros tabou. C'est-à-dire qu'il y a un énorme tabou, Anne le disait tout à l'heure, des fois tu ne trouveras même pas l'espace d'en parler parce que c'est... En fait, il faut que la honte change de camp. Exactement. Mais quand on le dit vraiment, c'est-à-dire que même celui qui dépose la parole pour oser dénoncer, faut voir aussi.
Mais ce qui est très parlant, c'est que quand on ose en parler juste à une seule personne, parfois la personne n'a pas l'oreille pour écouter. C'est terrible parce qu'on se dit, bon, cette personne-là, c'est ma copine, elle va me croire. Ou c'est surtout, est-ce qu'elle va me croire? Est-ce que ce que je dis, c'est réel au point où c'est grave? Ou est-ce qu'elle va me croire? Et parfois, on pose justement... on dépose, on se confie et puis la personne qui est en face de nous va nous dire n'en parle pas, sinon tu vas avoir des problèmes. Et ce qui est terrible, c'est que on a ce sentiment de culpabilité où on est victime, mais on a l'impression d'avoir le pouvoir de détruire sa famille. Si je parle, et d'ailleurs le bureau le dit très bien, si tu parles, tu vas détruire la famille. Si tu parles, tu vas mourir. Si tu parles, ta maman, elle sera pas bien. Si tu parles... Et finalement, on a le poids de la victime et le poids, cette peur de détruire la famille. Et ce qui empêche encore plus de parler. Et selon des études, en règle générale, les victimes, je crois qu'elles mettent en moyenne 10 ans pour en parler, pour oser en parler et oser aller dans l'action. Alors que selon la loi, la prescription, elle est de 20 ans. Il me semble que pour les personnes qui sont mineures, quand ça arrive au moment de leur... quand ils sont encore mineurs, ils ont 20 ans à partir de la majorité. C'est-à-dire, on arrive à 38 ans. Si à 38 ans, il n'y a rien qui a été fait, sachant que les faits ont eu lieu quand on était mineur, il y a prescription. Et puis du coup, ça, on se dit, mais ça ne sert à rien d'en parler, puisque
Pas de reconnaissance de ce statut de victime. Merci d'avoir été sur cette voie-là, puisque du coup, peut-être aussi en termes de solutions, de pistes de réflexion, qu'est-ce qui manque selon vous dans l'approche éducative qu'on a avec nos enfants pour justement prévenir ce genre de choses? On dit souvent aux enfants... fais attention aux gens que tu connais pas, on ne parle pas aux inconnus, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pour la famille, donc ce qui est à l'intérieur? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que en règle générale, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'hier, mais on a comme si ça ne se faisait pas,
c'est ça,
de dire fais attention aussi à l'intérieur?
C'est très tabou, ça. Moi je pense qu'on est dans un déni total et qu'on idéalise.
C'est ça.
On idéalise trop nos familles, c'est-à-dire que dans chaque famille, il y a des choses bizarres qui se sont passées ou qui se passent dans chaque famille.
Parce qu'on dit souvent, fais attention à l'étranger.
Parfois,
le danger, il est à l'intérieur de la maison.
Mais vu que tu dis à ton enfant de faire attention à l'étranger, de faire attention à l'extérieur, etc., ça, ok, c'est acquis. Par contre, rarement, on va dire à nos enfants, fais attention à l'intérieur. Papa, frères et sœurs, oncles, tantes, mais attention aussi, femmes, Parce que du coup, nous, les femmes, on passe carrément entre les mailles du filet parce qu'on va dire « fais attention aux hommes ». Donc, on va être super vigilante à ce que nos conjoints aient une attitude adaptée, les oncles, les tantes. Non, les oncles et les frères et sœurs, mais pour les tantes, pour les mères. Parce qu'il y a des mères qui abusent de leurs enfants. Mmh. Et du coup, si c'est elles qui font l'éducation des enfants en majorité, si c'est elles qui parlent sexualité, c'est elles qui préviennent des risques, mais du coup, elles ne vont pas prévenir le...
Oui.
Vous voyez ?
Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi les cousines. Hein. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs interviews où je raconte mon témoignage et j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai une dame qui m'écrit en me disant, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai subi de mes cousines. Et après, automatiquement, moi, j'appelais mes copines. Va, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Et elles reproduisaient, elles reproduisaient. Moi, je me souviens d'une fois où ma mère, pour me sensibiliser un peu à tout ce qui est sexualité ou autre, elle m'appelle dans la cuisine et elle me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et elle prend une allumette. Et ça, aujourd'hui, j'en rigole hein, comment elle m'a expliqué ce truc-là. Donc, elle prend une allumette, elle me dit, tu vois, ça, c'est toi. Et à l'époque, nous, tu sais, dans les HLM, tu avais le chauffe-eau. Mmh. Et elle me dit, tu vois, la flamme, là, c'est l'homme. Et là, elle approche, elle dit, si tu t'approches, tu t'enflammes.
Ah.
T'as compris? OK. Et puis, j'ai une version un peu plus poétique de mon père qui me disait, je crois que c'était à l'âge de 14-15 ans, il me dit, tu sais, ma fille, tu es ma rose. Et si on arrache ma rose, elle va être fanée. Je trouve ça très beau, mais je me dis...
C'est violent.
Aujourd'hui,
c'est violent.
En fait, je trouve que c'était poétique parce que lui, c'est un papa qui est dur. Ouais. C'est lui, il est beaucoup sur l'honneur. Et puis en plus, nous, en Tunisie, on vient d'une tribu très reconnue. C'est une famille extrêmement riche. Donc lui, il a quand même un nom à porter. Donc il s'est dit, lui, il n'a aucun recul sur la manière, sur l'éducation sexuelle ou autre. Mais il l'a dit à sa manière et pour lui, c'était quelque chose de beau.
Mais indirectement, si on me l'arrache, elle fane. Si on la découpe, si on l'enlève, si on la déplace, elle fane. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre de... Pas comme ce que tu disais, c'est un déchirement de devoir partir quand tu fanes. Ça veut dire que si tu oses pousser la porte pour t'enfuir, tu meurs aussi.
Mmh. Ouais,
tu n'as plus de valeur.
Exactement.
Tu ne vaux rien en fait.
Exactement. Et c'est ce que moi, j'ai ressenti pendant des années. Hein. J'ai mis vraiment une décennie. Parce que, en fait, moi, je pars, mais j'ai plus de valeur, en fait. Moi, je suis un déchet. J'ai été souillée. On m'a jeté comme un torchon. En plus, moi, on ne fait plus attention à moi. Donc, je vais laisser les hommes faire un petit peu n'importe quoi avec moi. Et puis, en plus de ça, j'ai ce manque affectif. Donc, je vais m'accrocher à n'importe qui, en fait, avec des personnes qui vont abuser de mes faiblesses, de tout ça. Mmh. Et c'est très, très difficile. C'est très, très difficile quand tu n'as pas eu cette éducation. Et puis, il y a ce truc-là aussi de l'estime de soi, de l'amour propre. Et je pense que c'est ce qui a manqué aussi dans l'éducation de nos parents, de t'apprendre à t'aimer. Mmh. Si tu t'apprends à t'aimer, si tu apprends l'estime de soi, est-ce que tu vas laisser quelqu'un faire n'importe quoi avec toi?
Et puis, s'aimer soi, en fait.
Oui,
hein,
c'est surtout
en tant que
ça.
Personne, mais pas soi par rapport à la projection que nos parents ont de nous.
Non, non. Ouais.
C'est vraiment important ce que tu viens de dire, Anne. Je sais que sur cette approche d'amour de soi... d'estime de soi, t'es assez sensible par rapport à ce que je posais comme question précédemment sur quels sont les leviers qu'on peut avoir en tant que parent et professionnel et ou professionnel pour accompagner et prévenir
Déjà, je pense que nos enfants, il faut leur dire les choses avec des mots adaptés selon leur âge, bien entendu, ou avec des images autre que celle qu'on a pu te donner, mais avec des images qui leur sont adaptées. Il faut parler. C'est-à-dire que je pense que lorsqu'on dit aux enfants, non, faut pas que tu sortes tard, faut pas que tu fasses ça, et qu'on met pas les bonnes raisons à côté, l'enfant, en fait, pour lui, ça reste abstrait. Ça reste abstrait. Donc, il faut dire... Moi, je ne veux pas que tu sois seul le soir parce qu'il peut arriver ça. Et là, à un moment donné, l'enfant, en son âme et conscience, il fera ou il ne fera pas. Mais en tout cas, il a l'information.
Exactement.
Alors que s'il n'a pas l'information complète...
Pour qu'il ait des petits signaux d'alerte, en fait. Ça veut dire que même si il fait, il va... Eh ben, peut-être qu'il sera beaucoup plus sensible à certaines choses qu'il va trouver peut-être anormales ou qui vont résonner en « Ah tiens, on m'avait dit Tu vois, c'est comme le coup du verre quand tu vas en soirée. Ça, on le fait de façon beaucoup plus généralisée. Mais si ton verre, tu l'as perdu de vue, tu bois plus dedans, quoi.
Ouais, c'est comme aujourd'hui, sinon on a des ados. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui passent.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut même pas contrôler. En plus, TikTok, ils ont juste à scroller. Il y a plein de choses qui passent. Et bah, en fait, il est important de dire à nos enfants que, par exemple, la sexualité, c'est quelque chose de particulier. En fait, il faut leur expliquer comme ça, même s'ils sont face à différentes choses, il y a le discernement qui fera que.
C'est... Je vais certainement mettre le pied dans le plat.
Mais ouais.
Allons-y.
C'est vrai qu'en ce moment, il y a une grosse polémique sur l'éducation sexuelle et les enfants, ce qu'on leur montre, ce qu'on leur montre pas, ce qu'on devrait faire, etc. Mais à mon sens, plutôt on répond à leurs questions en fonction de leur âge. Hein. Bien entendu, on ne va pas mettre un film porno à un enfant de 4 ans, il ne faut pas exagérer non plus. Moins il y a cette question-là, est-ce que c'est normal, est-ce que ce n'est pas normal ? La question du consentement, la question de mon corps, nommer les parties du corps, c'est très important, et pouvoir répondre à leurs questions en toute simplicité, ne pas se dire que non, on ne parle pas de sexe, le sexe c'est mal, c'est quelque chose qui n'est pas bien. J'avais lu une étude il n'y a pas très longtemps qui disait que plus tôt on éduque les enfants à la sexualité, plus tard se fait les premières fois. Tout simplement parce qu'il y a moins cette curiosité à aller chercher, qu'est-ce que ça fait, personne ne répond à mes questions, moins cette curiosité à aller regarder les films porno qui sont terribles pour nos ados, pas se mentir. Et du coup, le fait de pouvoir avoir des réponses à des questions aux adultes qui sont censés nous éduquer sur tout un tas de questions, dont la sexualité, ça aide beaucoup à la vigilance de nos enfants. Donc oui, il faut parler de sexualité en fonction de leur âge, bien entendu.
Et puis il y a toute cette pudeur aussi, parce que... Il y a un accompagnement à la parentalité aussi à faire pour aussi permettre aux gens de mettre en mots, de parler, d'oser nommer les choses. Parce qu'il y a une telle pudeur par rapport au corps, au sexe. Et par exemple, on parlait de levier, dès tout petit, par exemple, quand on commence à avoir un enfant qui va aux toilettes, quand on va l'aider dans les premiers temps à s'essuyer, on peut aussi expliquer, nommer. Là, maman ou là, papa t'essuie parce que tu ne sais pas encore le faire, mais tiens, essaye parce que bientôt, il n'y a que toi qui pourras le faire au moment de la douche. Quand on va doucher son enfant, dès tout petit, des bébés, qu'on nomme les parties du corps, c'est tes pieds, maman lave tes pieds, tes jambes, tes petites fesses, ton petit bidon. Et puis, à un moment donné, intégrer le fait que quand tu seras en capacité de le faire, tu sais, plus personne ne pourra toucher à ces parties-là, ni maman, ni papa, ni personne. Et en fait, on vient ancrer dans l'esprit de nos enfants que ce sont des parties qui leur appartiennent.
Et qui ne sont pas sales.
En plus, on était en train de les laver. mais du coup, je pense que c'est important parce que du coup, nombre d'enfants n'ont pas conscience de l'intimité de ces parties-là. Et du coup, quand il va y avoir un abus, comme il n'a pas assimilé le fait que ça lui appartient et que personne ne doit y toucher, à part dans des cas très particuliers, si tu as été aux toilettes, que tu n'arrives pas à t'essuyer, etc., tu peux appeler quelqu'un pour venir t'aider. Mais la condition, c'est que ça soit toi qui demande, etc. Et jusqu'à quand ? Mais je pense que dans les leviers, effectivement, il y a aussi le fait, un, comme tu disais, de nommer. Deux, le fait d'expliquer. Et de commencer à laisser l'enfant s'approprier son propre corps. Et ça commence par les cheveux, tu parlais de consentement tout à l'heure.
Ça me rappelle quelque chose, dans les cas d'inceste ou même d'attouchement, parfois la victime ne se rend même pas compte que ce qu'elle vit, ça n'est pas normal. À un point où on se dit, écoute, c'est comme ça, c'est tellement ancré qu'on se demande vraiment, est-ce que c'est moi qui exagère ? Est-ce que c'est normal ? Parce que justement, il n'y a pas eu cette éducation au consentement. Est-ce que là, c'est OK si on touche là ou là ?
Et puis, selon qui est insistueux. C'est-à-dire que si c'est la personne qui est ton repère éducatif, on sait très bien que les pires personnes que ce monde porte sont très vicieuses. Donc, ça va arriver sous forme de jeu, ça va être normalisé, avec aucun geste. Il n'y a rien qui indique en fait que ce que tu fais n'est pas normal, c'est un jeu, c'est normal, etc. Et puis, tant que l'enfant ne peut pas aller le comparer à l'extérieur, il ne peut pas se rendre compte de la normalité ou non. Par exemple, c'est pour ça que c'est important de laisser l'école et les structures qui accompagnent nos enfants en parler, parce que du coup, ça permet à l'enfant de confronter ce qu'il vit à ce qui est dit par l'adulte, à ce qui va être dit par ses pairs. Et au-delà de ce que certaines personnes peuvent penser en se disant « ouais, ça va les dévergonder », non, ça leur donne un point de comparaison, parce que s'il ne vient pas nous parler à nous en tant que parents, s'il ne trouve pas l'espace pour nous le dire à nous, mais peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va se dire « attends, si elle vient de dire que là, ce n'était pas normal et qu'on ne pouvait pas faire ce genre de choses, ou... bah, alors ce qui m'arrive, c'est quoi ?» Et là, on vient planter la graine de « c'est pas normal », où il y a quelque chose à questionner. Et plus ils sont petits, et plus ils questionnent sans tabou, en fait.
Ouais, mais est-ce que, parce que là, vous parlez de l'éducation nationale.
On va aussi accueillir Fatih, qui vient d'arriver. Bonjour Fatih, tu vas bien? Ça a été?
Oui, ça a été, excusez-moi pour mon retard.
Non, pas de souci. Est-ce qu'elle peut se présenter juste avant, comme ça, au moins c'est fait, Fatih? Vas-y. Est-ce que tu te présentes en deux, trois mots?
Ok, alors moi, c'est Fatih Comédienne, c'est mon nom d'artiste. Je suis artiste slam, donc j'écris mes textes et je les interprète sur scène. Je suis aussi art-thérapeute, comédienne. Je présente aussi une émission qui s'appelle Slam Art. Voilà, je fais pas mal de choses et j'adore ça.
Et tu es maman?
Et je suis maman. Je suis maman de deux garçons de 10 ans et 11 ans. Et voilà.
Merci, Fatih. Du coup, on était en train d'échanger sur... on a abordé un petit peu l'inceste. Et là, on était en train de se questionner sur les leviers et comment faire pour prévenir ces dangers chez nos enfants dès le plus jeune âge. Anne, on t'écoute.
Non, ça y est, je boude maintenant.
Pardon, je t'ai volé la vedette.
Non, pas de
soucis. Mais fallait bien qu'on t'intègre.
Oui.
Pas de soucis. En fait, moi, je voulais revenir sur le côté éducation nationale. Parce que je trouve qu'il y a un flou total, c'est-à-dire qu'on mélange tout, pour moi. Éducation sexuelle, je pense que ce n'est pas approprié, mais...
On n'appelle plus ça comme ça, d'ailleurs.
Oui, mais ils ont changé le nom, mais le contenu reste le même, en fait. C'est juste l'arbre qui cache la forêt. Mais je pense qu'on devrait plus être dans tout ce qui est relations affectives. Plus... que parler de sexualité. Parce que moi, je trouve que, en plus, vu les tranches d'âge auxquelles ils commencent à faire de la prévention et de la sensibilisation, comme ils disent, je trouve que c'est un peu trop tôt. Mais par contre, oui, travailler sur tout ce qui est relations affectives. Tout à l'heure, Amel, tu parlais d'estime de soi.
Exactement.
Je pense que ça, c'est la première des choses.
Bien
travailler
sûr.
Sur l'estime de soi, la
Bien
confiance
sûr.
En soi,
ouais.
Pour que, du coup... ces enfants qui vont devenir des ados, ces ados qui vont devenir des adultes, du coup, soient en phase totale avec ce qu'ils sont.
Ouais.
Parce qu'il est là le problème.
Ouais.
Parce que tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais, j'ai retenu quelque chose concernant ce qui t'est arrivé malheureusement.
Ouais.
Et tu disais qu'après, tu t'es donné le nom de déchet.
Ouais.
Et qu'après, il y avait des hommes. En fait, tu te laissais aller avec des hommes qui n'étaient pas forcément...
Dans des relations toxiques.
Ouais,
voilà, tu avais des relations toxiques.
Ouais.
Et je pense que la première des choses, c'est ça. C'est de travailler l'estime de soi pour que, du coup, les femmes qui ont subi ce genre de choses ou d'autres choses, ou d'autres sévices, ne soient pas fatalement les victimes de ce genre de choses. Parce que c'est des... c'est des cas de figure qui existent trop souvent, en fait. Le fait de se dire qu'une femme se dise... je suis un déchet, et comme je suis un déchet, peu importe si je suis souillé par tant d'hommes.
Ouais. Et tout ça, ça part, tu vois, de la cellule familiale. Ça veut dire que même moi, quand je suis partie à l'âge de 19 ans, quand même, moi, j'affronte un père traditionnaliste, etc. Et dans la ville où j'ai grandi, donc j'ai quand même grandi avec des gens de mon âge aussi, dans mon quartier, et toutes les fois où ma grande sœur, mon grand frère, il y a une fois où mon grand frère, dans le quartier, va essayer de convaincre donc, le père de ma fille aînée de ne pas se mettre avec moi. Et il va lui dire devant tous les mecs du quartier, « Mais vas-y, elle, c'est une salope, même moi, je l'ai baisée. » Enfin, il dit un truc de ouf devant tous les mecs du quartier. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui qui voient mon témoignage me croient par rapport à ce que je dénonce et ce que j'ai subi. Et puis ma grande sœur qui, elle, a suivi ses traditions, etc., à chaque fois qu'elle croisait mes copines, mais oui, mais non, elle, c'est une pute à quelle, etc. Et puis, tu vois, tu as tous ces trucs-là qui te colle. Ah ouais, bon, bah, je suis une putain nègre, ceci, cela. Moi, j'ai un souvenir où quand j'ai eu ma première fille, donc moi, je n'ai pas du tout de contact avec ma famille. Ma grande sœur va m'appeler, elle me dit, elle est plus noire ou plus blanche. Puis je me dis, elle s'appelle Neza. Elle s'appelle Neza. Elle pèse 3,260 kg. Elle fait 52 cm et elle va très bien. Et en plus, moi, Neza, c'est le prénom de ma mère. Et en arabe, ça signifie vertueuse. Donc en plus, gros scandale. Je donne le prénom de ma mère. En plus, il donne son prénom. Et maman, elle n'est même pas encore morte. Je dis, bon, je ne vais pas attendre que ma mère décède. J'ai donné son nom parce que justement, j'ai été privée de ma mère, moi, durant ma grossesse. Donc, il y a toutes ces robes-là, en fait, qu'on va te mettre. Donc, bah, je suis ça. Bon, bah, OK, d'accord. De toute façon, bon, on ne va pas me marier. Enfin, vraiment, tu te sens comme, comme un déchet, en fait, de la société, quoi.
Et moi, je voulais rebondir.
Ouais.
Du coup, tu as des filles.
Ouais.
Comment ça se passe?
Bah écoute, en fait, tout à l'heure, on parlait, tu vois, de nourriture émotionnelle et de toutes ces informations, toutes ces transmissions que tu dois donner à ton enfant en fonction de l'âge. Mais moi, je pars du principe où ça doit être avec les deux parents. Et souvent, on remarque que quand une jeune fille n'a pas l'intention ou l'amour de son père, la maman, elle peut lui expliquer tant de choses, mais il y a un manque quelque part. Et moi, j'ai rencontré avec ma fille aînée. Donc moi, j'ai pu reconstruire ma
vie. Quel âge
elle a ? Là, aujourd'hui, elle a 15 ans. J'ai pu reconstruire ma vie, etc. Mais ça a été très compliqué pour elle parce que moi, durant le suivi d'Azeu, je me dis, voilà, ma fille, elle a un père, une mère. Il a été violent avec moi, mais maintenant que l'Azeu est là, ils vont pouvoir la protéger. Donc, je vais pouvoir passer devant le juge aux affaires familiales pour qu'elle puisse voir son père parce que son père lui manque terriblement, quoi. Donc, on met en place le jugement, etc. Donc lui, il ne fait pas forcément attention à elle. En plus, il va reconstruire sa vie, il va avoir une autre fille, etc. Mais il y a ce manque qui va persister. Pourtant, elle a un beau-père qui est extraordinaire, hein, qui va s'occuper d'elle, qui va l'accompagner, qui sera là à tous les rendez-vous. Pourtant, c'est son beau-père, mais qui sera là aux équipes éducatives, qui sera là aux réunions, qui va l'inscrire au sport, qui va vraiment, il ne va pas le remplacer, mais il va être
son rôle de beau-père.
Voilà, ultra présent, mais elle n'accepte pas. Comment ça, en fait, toi, t'es là, t'arrives de nulle part. Moi, t'es pas mon père, quoi. Et c'est une souffrance quelque part pour elle. Et donc, à l'âge de 14 ans, on lui donne un smartphone, etc. Donc, on a tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais moi, quand même, je veille. Je fais attention parce que j'ai quand même une responsabilité. Moi, s'il arrive quoi que ce soit, je peux rentrer en prison. Donc, je fouine. Et puis, à un moment donné, je vois Snap, ça envoie des photos, elle est presque nue. Donc, moi, je ne vais pas, comme à l'époque de nos parents, frapper ma fille, etc. Je lui dis, bon, bah, pour qu'elle prenne conscience quand même de certaines choses, je dis, viens voir, j'ai vu un super truc, etc. Viens, je te montre. Puis, je lui montre ses propres vidéos. Puis là, elle court, elle saute sur son lit, elle se cache. En fait, elle a honte et tout. Je dis, est-ce que tu te rends compte qu'on peut vendre ces photos? Est-ce que tu te rends compte qu'on peut te rechercher, on peut te faire extrêmement mal, etc. Et puis, moi, je vais envoyer un message à son père, s'il te plaît, prends plus de nouvelles de ta fille, l'appelle pas une fois par mois, elle a un téléphone, prends plus de contacts. Enfin, au moment où tu dois la récupérer, récupère-la, prends du temps avec elle, donne-lui cet espace, elle a besoin de ça. Et puis, lui, il a complètement rien à faire. Je me souviens d'une fois où je parlais avec Alexis, puis je m'effondre. Je pleure. Pourquoi, en fait? Pourquoi tu ne prends pas soin de ta fille? Enfin, tu ne te rends pas compte des conséquences, en fait, qu'il y a sur ta jeune fille. Et au fur et à mesure du temps, donc, je lui explique certaines choses, vraiment avec bienveillance, avec amour. Moi, bon, du coup, je vais retirer le smartphone. Hein. Je vais lui acheter un Sagem. Tu reçois les appels. Mais je lui explique. Voilà, tu as du mal à gérer. C'est dangereux pour toi. On va faire ce travail de confiance. Quand je vais voir que voilà, tu as compris certaines choses, etc., jusqu'à présent, elle n'a toujours pas de smartphone. Et finalement, elle le vit pas mal. Elle a un téléphone où elle reçoit les appels, SMS, etc. Elle a un PC, si elle veut regarder série Netflix, etc., elle veut se poser dans sa chambre, etc. Et tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on parle ensemble avec bienveillance. Et à un moment donné, je lui dis, tu vois, alors moi, je vais t'expliquer certaines choses. Et tu sais, il y a des maladies, etc. Tu sais, peut-être que voilà, tu as un copain. Vous allez peut-être être amené à avoir des... Après, à un moment donné, elle me dit, je ne sais pas de quoi tu me parles là, mais c'est gênant un peu. Je dis, mais voilà, si ça se passe, il faut se protéger, il faut faire attention.
Mais ça, c'est vraiment leur mot, ça, c'est gênant.
Ouais. C'est gênant, mais par contre, les photos, Par contre, les photos, voilà, c'est pas gênant.
Au moins, je montre que moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis OK avec ça. Mais il faut être vigilant parce que t'as eu tes règles, tu peux tomber enceinte. Est-ce que t'es prête à ça? Enfin, à un moment donné, elle m'a fait rire parce que. Voilà, avec ses deux petites sœurs, à un moment donné, les deux pleurent, etc. Elle me dit, ah non, non, moi, j'aurais pas d'enfant tout de suite. Hein. Franchement, elles font trop mal à la tête. Mais. Je lui ai dit, voilà, moi, je suis OK avec ça. Il n'y a pas de problème. Le jour où tu rencontres telle ou telle chose, tu viens, je peux te conseiller, etc. En tout cas, il y a cet espace qui est ouvert et il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout. Et aujourd'hui, c'est une jeune fille qui est apaisée, qui n'est plus dans cette non-acceptation avec son beau-père. Hein. Elle a compris que voilà, il était là pour elle, qu'il l'aimait. Et elle a réussi à refaire ce travail avec son père, quoi.
Il y a plusieurs choses dans tout ce que tu as dit, ouais. Amal, notamment sur, on revient sur cette question d'éducation, comment on éduque. Fatih, toi, tu as deux garçons.
Ouais, c'est ça.
Du coup, peut-être que ça serait intéressant de t'entendre sur justement toutes ces questions. On parlait de levier, on a très vite mis les pieds dans cette question de l'éducation aux relations affectives. Et d'ailleurs, j'en profite, tout à l'heure, Anne, tu as dit, ouais, mais le problème, c'est le contenu. Moi, je pense que le problème, c'est pas forcément le contenu, c'est justement la désinformation qu'il y a auprès des familles.
Ah, ouais.
Parce que si tu ne t'arrêtes pas pour expliquer quel est le contenu et comment il s'adapte aux enfants, et ben forcément, tu vas avoir des adultes en face qui vont être réfractaires parce que toi, t'es qui? Quelles sont tes valeurs? Mais attends, nous, on ne fait pas comme ça chez nous, etc. Alors que, en fait, dans les relations affectives, dans tout ce processus, il y a des étapes. Ça veut dire qu'avec les maternelles, on va être sur connaître son corps, les pieds, les mains, la tête, et tout doucement, on va introduire le consentement, mais pas le consentement comme chez les ados. Ça va être juste, eh ben, si tu ne veux pas qu'elle te donne la main parce que tu n'aimes pas cette sensation, eh ben, tu ne donnes pas la main. Tu n'as pas le droit de toucher les cheveux de quelqu'un qui ne veut pas, etc. On va commencer comme ça. On va introduire l'estime de soi. Et petit à petit, on va arriver...
Toi.
Non.
Toi, ce serait ton approche.
Non, mais l'approche.
T'es sûr que dans les manuels, l'approche, elle est comme celle-ci?
Mais en fait, qui est-ce qui a vu les manuels? Qui pourrait me décrire ce qu'il y a dans le.
Non, moi, j'ai pas confiance en l'éducation nationale. base.
Et justement, c'est les fake news. Ça veut dire qu'au moment où certains se sont saisis de cette question-là en brandissant des images issues de potentiels manuels c'est qui ça. Seraient utilisés, etc. Mmh. Or, aujourd'hui, déjà, c'est 2 heures. Hein. C'est même pas toute une session, c'est pas comme le cours d'histoire, etc. Les enfants, c'est 2 heures de ci, de là. Et ce sont des approches, c'est l'estime de soi, c'est le consentement, mais c'est aussi le deuil, parce qu'il faut apprendre aussi aux enfants à se détacher. Il y a toutes ces choses-là. Et c'est mis bout à bout que ça donnera un enfant qui sera averti. Parce que estime de soi, parce que consentement. Si déjà j'arrive à dire à ma copine, ne me prends pas par le bras, j'aime pas cette sensation-là, bah, ça sera déjà plus difficile pour quelqu'un de venir te toucher le téton si t'en as pas envie. T'es plus armé en fait pour dire non. Et du coup, je pense vraiment que dans les pistes, il y a aussi tout ce travail à faire avec les adultes pour discuter, expliquer et que les gens comprennent vraiment l'impact et l'importance que ça a.
Mais est-ce qu'il serait possible de d'abord travailler avec les adultes.
Ouais, je pense que...
Ce serait l'idéal.
Et après les enfants.
Sauf que le problème, c'est que si on travaille avec les adultes dans un premier temps et après avec les enfants, le temps que t'es fini, les enfants ne sont plus des enfants.
Non, le problème, c'est aussi les réseaux sociaux. On entend tout et n'importe quoi. Moi, plusieurs fois, j'ai vu des vidéos où, je ne sais pas si c'était un montage, où on montrait des photos à des enfants de 5 ans.
Avec des pénétrations et des trucs à
arrêter. On expliquait ce que c'était la fellation. Je dis, mais ce n'est pas possible.
Ouais.
Pardon, excuse-moi.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut prendre un peu. Je ne sais pas si vos micros fonctionnent.
Oui, c'est très bien.
Ah, d'accord. Je pense qu'il faut prendre un peu le mal par la racine. Donc, ceux qui font ces actes odieux, c'est qui? C'est souvent les adultes, voilà, aux enfants. Il y a aussi des enfants qui violent d'autres les enfants, voilà, qui font des attouchements, etc. Et je pense que ouais, l'éducation nationale a sa part de responsabilité et que les parents aussi ont leur part de responsabilité. Et je pense que le plus important, c'est de laisser la parole à l'éducation, enfin qu'elle puisse faire ce qu'elle peut faire. Et en tant que parents, nous parents, on essaye de faire toujours au mieux pour nos enfants avec ce qui nous est donné à ce moment-là, parce que les époques sont différentes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à diffuser des messages via différents canaux. Et je pense qu'il faut utiliser ça à bon escient. Je pense qu'aussi, comme l'a souligné tout à l'heure Amal, il est important de donner à nos enfants un espace d'écoute. Voilà, d'écoute en toute liberté. Sans jugement. Dire à ton enfant, moi c'est ce que je me suis surprise à dire à mon fils il n'y a pas très longtemps. Justement, on parlait aussi, on abordait un petit peu la sexualité et tout ça. Et je lui ai dit, peu importe ce que tu feras dans la vie, peu importe les bêtises que tu feras dans ta vie, sache que maman sera toujours là pour t'écouter. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important de le dire à nos enfants parce que moi, dans mon cas personnellement, quand j'étais petite, je n'avais pas cet espace d'écoute avec mes parents. J'avais trop peur de dire quoi que ce soit à mes parents, mais encore plus en matière de sexualité ou juste dire que voilà, j'étais amoureuse d'un garçon ou que j'avais des sentiments pour un garçon ou quoi que ce soit. C'était juste pas possible de me confier ni à ma mère, ni à mon père, ni à mes tantes, ni quoi que ce soit. Et je trouve que c'est important de dire à l'enfant que tu as auprès de moi, ton parent, cet espace d'écoute, de liberté de parole et que je ne te jugerai pas en fait. Et mais que juste je t'accompagnerai autant que je peux avec les outils qui seront disponibles à ce moment-là en fait.
Même avec les adultes, je dirais.
Oui, parce que bon, voilà, vous savez tous que mon métier c'est la sexothérapie, donc la sexualité. Quand je l'ai annoncé à mes parents, mais Elvira, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'arrive ?
C'est tellement tabou chez nous. Je trouve ça incroyable parce que
ma fille, c'est une cochonne. Bah oui.
En plus, je pense que le pire, c'était même pas mes parents. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mm-hmm. Mais et finalement, quand je suis partie en Côte d'Ivoire, du coup, j'ai fait des ateliers sur le thème de la sexualité. Au début, on m'a regardée comme un ovni. Est-ce que c'est de la prostitution ? Est-ce que c'est comment ? On fait de la thérapie avec le sexe ? Non. Et puis finalement, quand j'ai fait mes ateliers, j'avais tellement de personnes qui avaient des questions parce qu'ils n'avaient pas justement cet espace-là pour pouvoir répondre.
C'est ça.
Et des situations terribles. Vraiment.
Et le sexe, aujourd'hui, il est tellement jugé facilement par les gens qui méconnaissent la sexualité. Et je trouve que c'est dommage que dans notre, j'ai envie de dire, communauté ou dans notre culture, ou dans d'autres cultures aussi, qu'on ne parle pas de sexualité, ni entre adultes et ni avec nos enfants.
C'est ça.
Mais je trouve ça dommage. Ça fait des mauvais...
Vous ne pensez pas que les gens ils pensent que juste en parler, c'est ouvrir la porte ? En fait, il y en a beaucoup sur les espaces parentalité. Si j'en parle, ça veut dire que je dis que je suis OK. Si je dis que je suis OK, je suis en train de le pousser.
Oui.
Et du coup, il y a justement...
Il faut bien faire comprendre que les enfants, ils naissent pas dans les choux. Quand même.
Oui, mais du coup... Mais je trouve que la peur d'aborder ce thème-là, justement d'ouvrir la porte au sujet de la sexualité... je trouve que c'est une peur en tant que parent et on ne devrait pas l'avoir cette peur-là parce que la sexualité fait partie intégrante de la vie.
Rapport à toi, c'est-à-dire que pour en parler avec ton enfant ou pour en parler avec des enfants dans le milieu professionnel aussi, que ça soit Elvira, même Amal ou nous encore même dans nos ateliers, pour en parler librement, il faut être au clair avec ta propre sexualité. Si toi, tu n'es pas raccord avec ta propre sexualité, si toi-même, tu as des tabous ou des gênes, c'est impossible d'en parler avec l'autre parce que dès que l'autre va aborder quelque chose que tu ne pratiques pas, que tu ne connais pas ou encore pire, que tu bannis, tu vas te crisper et du coup c'est là où arrive la gêne, c'est malaisant dans la conversation, alors que si t'es ok et que ton langage est adapté, que tu sais un petit peu vers quoi tu tends, etc. Et c'est pour ça que c'est important aussi de sensibiliser les parents sur aujourd'hui qui éduque en grande majorité la sexualité de notre jeunesse, c'est la pornographie. C'est la pornographie.
Et du coup, pour ça qu'il est important de démystifier la sexualité.
Si toi, mais par exemple, si toi t'es pas à l'aise avec ne serait-ce que le mot pornographie, ça veut dire est-ce que toi tu t'assois pour regarder ce que...
Mais il faut se mettre à l'aise avec ce mot-là en fait. Oui, à un moment donné, il faut s'ouvrir.
Pour le plus grand nombre, c'est difficile. Ça veut dire que aujourd'hui, sur 10 parents, je suis pas sûre qu'il y en ait énormément qui puissent s'asseoir, regarder, pour au moins être au fait de ce que tes enfants sont susceptibles de voir. Ça veut dire que nous, dans notre imaginaire, quand on entend, oui, les enfants, attention, ils sont livrés à eux-mêmes, ils regardent de la porno, on pense à la porno des années 80.
Ah non,
déjà, ça n'a plus rien à voir. Ça veut dire
c'est
que déjà
plus hardcore aujourd'hui.
Mais du coup, si toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu n'es pas à l'aise et que ne serait-ce qu'appuyer sur le bouton pour voir ce que potentiellement ton enfant pourrait voir, il y a déjà un sujet. C'est-à-dire que quand on parle, tu ne parles pas du tout de la même porno que celle qu'ils observent eux. Tu parles de celle des années 80, là où c'était crypté.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a pas longtemps encore, il y a des jeunes filles qui sont en train de se poser la question de se faire opérer parce qu'elles ont l'impression que leur sexe ne ressemble pas à ce qu'ils... Ouais. Mais parce que c'est les images. C'est les images qu'elles voient, c'est ça leur normalité. Ouais. Et comme il y a un fossé entre les adultes qui parlent, les enfants qui regardent, et ceux qui n'osent même pas regarder parce que tout ce que ça induit, tout ce que ça implique, et ben là aussi il y a un sujet.
Ouais, mais parce que les parents, mais en fait c'est parce que les parents ont peur de se mettre en difficulté.
Mais ils ont même peur de regarder.
Oui, mais non, mais quand je dis ils ont peur de se mettre en difficulté, c'est-à-dire que là tout à l'heure tu parlais de l'échange qu'il doit avoir entre l'enfant et le parent, d'accord. Mais le souci c'est que l'enfant, si maintenant tu ouvres la discussion avec l'enfant, il faut que, comme tu le dis, tu sois calé. Et si tu n'es pas calé, tu vas montrer tes faiblesses. Et si tu montres tes faiblesses, tu perds en crédibilité.
Et
les parents... C'est forcément être calé, en fait.
Ouais.
Non, mais moi, je ne suis pas tellement d'accord. Te dire que, bon, voilà, là, je ne suis pas trop au point sur ça. Je vais me renseigner, je reviens vers toi.
Mais c'est une histoire d'ego. Moins...
Mais tu n'es pas obligé d'être calé.
Non, attention. Moi, ce que
dans
je dis,
les réponses que tu vas donner. Hein,
moi, ce que je dis.
Très bien, être vulnérable et dire je ne sais pas. Oui.
Parce que moi, ce que je dis, ce n'est pas d'être calé. Moi, je me mets à la place de certains parents qui. Parce que la réalité, c'est que les parents, souvent, ont une posture de nous, on sait tout.
Ouais, ça, déjà, c'est un problème. Ça.
Voilà, nous, on sait tout.
Pourtant, nous, on sait rien.
Donc, c'est pour ça que je disais qu'ils ont peur d'être mis en difficulté. Qu'on voit leurs faiblesses, leurs failles. C'est dans ce sens-là, en fait, que je dis ça. Après, bien entendu, qu'on ne peut pas être calé sur tout et que la chose principale, c'est l'écoute.
Et puis même dans les mœurs, ça veut dire que aujourd'hui, en tant que parent, par rapport à ta représentation à toi de la sexualité, c'est tellement en décalage. Mais même si, quand ton enfant va... quand on parle des dangers qu'il y a autour de la porno
pédocriminalité.
La pédocriminalité, la pornographie, la plupart des adultes sont très loin de ce qui se passe, hein, de ce que les enfants voient. On est encore, en fait, même dans l'imaginaire, on ne peut même pas imaginer certaines scènes que les enfants peuvent décrire
déjà,
ou voir.
Niveau du porno, il y a un gros souci. Le porno est addictif. Ça a les mêmes propriétés, on va dire, que le cannabis, que la cocaïne, que... On peut vraiment être addict à la pornographie. Bon, l'addiction à la pornographie cache aussi de l'addiction à la masturbation. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais la pornographie fait vraiment de gros dégâts aux enfants et même aux adultes en devenir sur leur sexualité. Par exemple, avoir cet imaginaire de voilà, il faut que j'ai un sexe plus ou moins grand ou des lèvres plus ou moins comme ça. Et ça bousille vraiment la sexualité de beaucoup d'adultes, énormément. Et déjà, la pornographie n'est pas à but éducatif. Ça a but masturbatoire, c'est-à-dire qu'on n'apprend rien dans la pornographie. Et ça, déjà, dans l'imaginaire des gens, c'est que, ah non, mais si, moi, j'ai tout appris dans le porno. moi, c'est comme ça que j'ai su. Mais non, en fait, le porno n'est pas fait pour vous éduquer. Ça, c'est déjà une première chose.
Ouais, j'aimerais bien rebondir là, sur ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, par rapport aux enfants, comment expliquer les choses. Moi, les enfants, parfois, sont surprenants, parce que moi, j'ai Imane, qui a 6 ans, qui, un jour, elle vient me voir, elle me fait « Maman, t'as déjà vu papa sans caleçon? Donc déjà, j'ai cru que j'allais exploser de rire. Et en fait, tu peux pas te dire, ouais, mais comment elle s'est posée? Elle s'est posée à un moment donné, elle est venue, je sais pas, on faisait un truc, et j'ai dit, bah oui, quand? Déjà, tu vois l'innocence de l'enfant, je dis, bah on a fait des bébés, et ça lui a suffi. Bah Iman, elle est venue, après il y a eu Joud, etc. Ah ok, d'accord, et puis elle s'est barrée. Et elle m'en a plus jamais reparlé. Mais j'ai pas été obligée, tu vois, de rentrer dans les détails, mais moi, ça m'a mis à la réflexion. Et si elle revient et elle me demande comment on fait les bébés.
Je prends du scotch. Non, je rigole.
Et là, à ce moment-là, donc tu vois, tu te pousses à la réflexion, tu dis, c'est une question, à un moment donné, elle va me la poser. Mmh. Et il faut que moi, je puisse répondre, tu vois, genre, sans ce truc-là tabou, sans c'est bizarre comme question. Tu vois, pour pas qu'elle ressente cette chose-là, parce qu'elle peut se dire, ah, ça se trouve, tu sais, ils m'ont eu bizarrement ou autre. Mais voilà, et on parle aussi de l'éducation nationale, et ça, c'est un gros problème, parce que l'éducation, c'est... Donc, l'enfant appartient... Enfin, il appartient pas. Éduqué par l'éducation... Enfin, par l'État et par les parents. Mais...
Et par tous les autres adultes qui gravitent autour.
Exactement. Ouais. Mais il y a un gros problème, parce que déjà, on a des parents, ouais, c'est bon, j'ai inscrit mon enfant à l'école et tout. Est-ce que tu as téléchargé le programme d'éducation? Et la plupart des parents ne téléchargent pas le programme d'éducation. Là, on a un guide qui s'appelle le guide Evras, qui a été mis en place en Belgique. Où là... dû à tout ce qui a été transmis aux enfants dans les écoles, il y a eu énormément de placements parce que les parents, ils n'étaient pas du tout OK avec en fait, ce que le guide Evras transmettait. Donc, c'était quand même un peu plus trash que ce qu'il y a en France aujourd'hui. Mais ça arrive. Ça arrive tout doucement, mais sûrement. On parle d'éducation sexuelle, mais on a aussi ce truc-là dans les écoles. Voilà, le parent a mis que son enfant ne mange pas de porc. Mais moi, j'ai eu des formations qui disaient si le petit Mohamed, là, il veut manger du porc, tu lui donnes. Et l'animateur, il ne doit pas s'y opposer. Et le parent, il n'a pas intérêt à venir faire un scandale. Donc déjà, il y a une certaine problématique. Et moi, j'ai l'impression, moi, j'ai travaillé dans les écoles pendant 20 ans, jusqu'à là, dernièrement, où je me dis, on est en train de désolidariser, en fait, le rôle du parent, en fait. Le parent, il n'a plus trop son mot à dire. Et les violences se font aussi au sein des écoles.
Oui. Ah ouais. En fait, là, dans ce que tu dis, moi, ça me fait tout de suite écho à une phrase que Anne aime dire. C'est... En fait, on est dans une société où il y a trop de défiance. Au lieu de travailler main dans la main, c'est dos à dos. Parce que tu vois ces exemples de tu donnes des conditions, tu donnes
des restrictions.
C'est pas des restrictions, mais en tout cas tu déposes ton enfant en disant voilà, moi mon enfant il mange pas de porc, ou mon enfant
les petites recommandations,
tu donnes des recommandations, mais juste le fait de demander aux parents de remplir des fiches avec des recommandations pour les enfants et de ensuite dire aux adultes qui encadrent ces mêmes enfants, on fait fi des recommandations, c'est l'enfant qui va décider, ben là, il y a un sujet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les droits de l'enfant, on l'écoute, il a sa place, etc. Et c'est l'adulte qui, jusqu'à un certain âge, sait ce qui est bon pour l'enfant aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la laïcité, c'est le droit de croire, d'accord, le droit de faire comme on le souhaite d'un point de vue religieux, jusqu'à ce que l'autre ait son libre arbitre. C'est-à-dire que, partie de là, dans le rôle des parents, il y a aussi cet éveil spirituel, culturel, religieux, ça fait partie. Quand l'enfant pourra choisir, ça sera encore autre chose. Mais aujourd'hui, un enfant de 3, 4, 5, 6 ans qui vit chez ses parents de confession chrétienne, juive ou musulmane, c'est pas l'autre adulte qui va venir défier ça, en fait.
On a eu ce problème.
Mais oui,
avec une de nos filles.
Oui, elle arrive à l'école, donc son nom de famille n'a pas une consonance musulmane. Ouais. Donc elle arrive à l'école et puis elle dit moi je mange pas de porc, et puis on lui dit il y en a.
C'est cliché.
Ok, d'accord.
si tu manges du porc. Et en fait là, elle est toute petite, elle est en maternelle, donc finalement. Heureusement qu'il y a un animateur qui passe par là et qui dit non, elle mange pas de porc, etc. Mais quand la petite revient, elle dit mais maman, je comprends pas, j'ai dit que je n'en mangeais pas et on m'a dit que si, parce que mon prénom. Mais ça n'a rien à voir. Et après, là où je te rejoins, c'est que un enfant qui s'appelle Mohamed et qui dit manger du porc, eh ben c'est possible.
Oui, bien sûr.
Et il n'a pas approuvé, il n'a pas donné sa pièce d'identité. Après, c'est là où il y a un amalgame, c'est le travail des parents en dehors de l'école, ouais, d'éduquer ton enfant à savoir ce qu'il peut, ce qu'il peut pas, etc. Ouais. Mais ce n'est pas à l'école de venir vérifier ou de dire « Ah non, tu t'appelles Mohamed dans le doute ». Non, ouais, si l'enfant s'appelle Mohamed, il peut très bien être serbe et s'appeler Mohamed parce que ses parents, ils ont bien aimé le prénom Mohamed. Ouais, il est où le problème, ouais. Et il peut s'appeler Mohamed avec un nom de famille à consonance maghrébine et manger du porc, il y a quoi ? Donc du coup, c'est sur ces questions-là. Et je pense que la formation qui est donnée, c'est que c'est pas à toi de te fier par rapport au prénom de l'enfant, ouais, c'est-à-dire il y a une fiche sanitaire. Mmh. Si c'est pas noté dans la fiche sanitaire, et ben c'est la parole de l'enfant qui prime, mmh, parce que il sait.
Ouais, mais ils sont pas souvent écoutés là. J'ai le papa, moi Alexis est catholique, il mange du porc à la maison, il y a du porc, mais de dernière mange du porc. Mais moi je travaille dans les écoles pendant longtemps, donc elle est là dans l'une des écoles où j'ai travaillé avec des collègues avec qui j'ai bossé. Et la dernière fois, elle vient me voir, elle me dit « Maman, j'ai prévenu les autres que moi, je mangeais du porc. Ils ne m'ont pas donné du porc. Pourquoi ?» Et tout. Je dis bah, « Tu leur dis que tu manges du porc. » Et en fait, elle n'a pas compris. Et puis, eux se sont dit, en fait, tu avais l'impression de se dire « Bon, bah, si je fais manger cet enfant du porc, alors que je sais que moi, ma collègue, elle est musulmane, elle n'en mange pas, peut-être que je vais être punie ou je ne sais pas. » J'ai dû appeler. « Allô ? Oui ? Il y a écrit quoi dans le dossier ? Voilà, il n'y a pas de restriction ou autre. » Laisser ma fille manger ce qu'elle veut. Et en fait, il y a ce travail aussi dans l'éducation nationale.
Parce que les mœurs.
Voilà, il y a ce travail de déconstruction. Et moi, je pars du principe où je trouve ça très intéressant. Parce que moi, j'ai mis du temps avant de me déconstruire. Et j'ai mis ce temps-là parce que je suis restée accrochée très longtemps, par exemple, à ma famille, au fait que rien que le fait de pouvoir retourner à ma famille, à un moment donné, on me disait, oui, si tu te maries avec un musulman, eh ben, papa, peut-être, il va te reparler. Donc moi, pendant des années, j'ai essayé de me marier pour pouvoir réintégrer...
Fatih, ça résonne.
Ça résonne, ouais, tellement. C'est pour ça que je suis comme ça en train de la regarder.
Pour réintégrer la famille. Et finalement, moi, j'ai fait des réunions dans la dernière ville où j'ai bossé. Où on nous dit, oui, déconstruction. Alors, on parle de déconstruction. Et à un moment donné, j'y vais, OK, d'accord. Le petit Abdelkader, il va rentrer chez lui le soir. Et il va mettre la robe de princesse à sa sœur. Et il va venir devant son père. Je suis... Donc le petit se fait éclater. Le petit se fait éclater à la maison. Il ne comprend pas parce qu'à l'école, on lui a dit qu'il pouvait mettre une robe. Alors moi, en fait, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Et encore une fois, là, j'ai été à une sortie scolaire avec ma fille. Donc ils ont participé à un spectacle. Je crois que c'est Eros le coucou, je ne sais pas quoi. Donc c'est l'histoire d'un coucou qui n'arrive pas à dire coucou, mais qui dit i-an. Et dans l'histoire, en fait, j'arrive au spectacle. Donc... tout se passe bien, donc c'est un spectacle, quoi. Et je vois un homme en tutu, talon. Encore une fois, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, à la fin...
Moi, j'en ai.
Alors, attends. Donc, moi, à la fin, il n'y a pas de souci. Donc, c'est l'histoire d'un petit coucou qui ne sait pas faire coucou, qui sait faire que i-an. Et finalement, il va trouver une safe place où il y a un endroit où l'éléphant miaule. Alors, il n'y a pas de souci. On a des différences. Et à un moment donné, arrive le questionnement des enfants. Et puis, il y a une petite qui s'appelle Mama, elle lève le doigt. Pourquoi lui, mine robe ? Superbe question, parce que tu peux mettre ce que tu veux. Alors, est-ce qu'on peut faire des ateliers sur l'estime de soi et l'amour ? Est-ce qu'on peut commencer par ça ? Parce qu'à partir de là, l'enfant, il pourra choisir la voie qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'on veut imposer toutes ces choses-là ? Pourquoi est-ce qu'on veut perturber l'identité de l'enfant ? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument rentrer des choses dans la tête de l'enfant ? Venez, on l'apprend. Enfin, rien que ce ne serait-ce que le consentement. Moi, je me souviens, il y avait des enfants rangés deux par deux, puis tu as le petit copain qui touche les cheveux de la fille, elle vient me dire, il m'énerve, il touche mes cheveux. Ok, Mathieu, est-ce que tu lui as demandé avant ? Non. Eh bien, alors, tu ne lui touches pas les cheveux. Tu demandes avant. Et ça, je pense, c'est des petites bases, des petites choses qui apprennent, en fait, le respect l'un envers l'autre, etc. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses. Et donc, je parlais avec l'enseignante, elle me dit, oui, ben, c'est pour ça, moi, sur le choix des parents de sortie, bon, j'ai pas pris, elle n'a pas pris une maman voilée. Parce qu'elle aurait été outrée, en fait, durant le...
Mais ça, c'est pas normal.
Voilà, déjà, il y a ça. Donc, il y a énormément de problématiques. Et encore une fois, dans tout ce qui est État, en tout cas, moi, je parle de l'État en règle générale, éducation nationale, on a des choses, nous, professionnels, quand on travaille, il y a un truc qui s'appelle le devoir de réserve.
Est-ce que ouais. Juste, Amel, ouais. Amel, pardon, je voulais poser une question à Elvira.
Yes.
Je vais me mettre dans le bourbier, c'est ça ?
Non. Non, mais est-ce que il t'arrive de recevoir des patients ? On dit patients, clients, on dit quoi ?
Bon, pour les personnes que j'accompagne, on va dire ça comme ça.
Ceux qui sont accompagnés.
Voilà.
tu reçois par exemple des femmes, parce que tout à l'heure on parlait des femmes qui avaient été traumatisées, en fait qui avaient
qui avaient subi des traumas,
qui ont des problèmes de sexualité avec leur conjoint.
Ah oui, oui, par rapport à leur trauma.
Voilà, et comment tu déconstruis ça?
Alors,
et comment elles font pour parler sexualité avec leur enfant, si elles en ont?
Alors, c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que, bon, première question, c'est comment est-ce qu'on déconstruit? Déjà, c'est en parler, faire une prise de conscience et pouvoir valider le fait qu'elles sont victimes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, elles savent qu'il y a eu quelque chose, mais il y a ce sentiment-là de j'ai cherché, j'ai mérité. Donc, tout ça aussi, ça se déconstruit. Ça met du temps, ça dépend des personnes. Moi, ce que j'utilise, c'est la TCC-thérapie, donc thérapie cognitive et comportementale. Donc, ça se fait en trois phases hein, qui se rejoignent un peu. C'est la pensée, le sentiment, le comportement. Donc, en fonction de ce qu'on pense, on a un certain sentiment, puis un certain comportement. Travailler aussi sur l'impact que ça a eu dans nos vies. Il y a plein de choses. Il y a l'écriture, etc. Et puis, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est un peu comme les films d'horreur. Je ne sais pas si quand tu regardes un film d'horreur, la première fois, ça te choque, mais vraiment. Et au fur et à mesure de regarder le film d'horreur, donc de regarder au fur et à mesure le trauma, et ben finalement, on est dans une désensibilisation du trauma et on arrive effectivement à se dire que ben, j'ai été victime, c'est pas normal, et en parler et finalement regarder la blessure sans que la douleur soit activée. Voilà. Alors, comment il faut faire pour en parler à son enfant? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà être OK avec nous-mêmes sur notre sexualité. Ça met du temps, effectivement, mais pouvoir aussi se dire que c'est une personne qui n'est pas moi et ne pas retranscrire un peu nos traumas à nos enfants et leur laisser tout simplement cette ouverture d'écoute, quoi.
Est-ce que plus gros frein qu'on va rencontrer sur justement cette ouverture et cette communication, il n'est pas aussi au-delà de la pudeur dont je parlais tout à l'heure, mais la religion. Parce que ça soit toutes les religions confondues, il y a un gros sujet et il y a des gros versets aussi.
Bon.
Sur tout ce qui est lié à la sexualité. Et du coup, on sait tous à peu près ce qu'il faudrait faire. Mais des fois, c'est paradoxal et ça vient se confronter aussi à nos croyances, à nos us, à nos coutumes. Et là, on n'a pas encore trouvé la recette qui soit l'entre-deux pour permettre aux gens justement de passer à l'action. Parce que tu as des gens qui savent qu'il faut passer à l'action et que ça va préserver leurs enfants, ça va leur éviter des choses, etc. On y vient de plus en plus, mais il y a aussi quand même cette impression d'être pas contre-courant, mais pas tout à fait dans les clous,
Donc là, c'est ce qu'on appelle un peu la crassie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un peu une faiblesse de, un peu de volonté, parce qu'on sait exactement ce qu'on doit faire pour pallier au problème, mais finalement, on le fait pas parce que c'est trop dur ou que c'est pas, on peut pas le faire. Mais la religion, ça a vraiment un poids énorme sur enfants, sur notre éducation. Et parfois, les problèmes, enfin les solutions qui sont là, vont à l'encontre de religion. Et c'est vraiment des choses qui sont tellement ancrées que déconstruire ça, c'est démonter un monument, en fait. Parce que la religion, c'est vraiment la parole qu'il faut écouter, qu'on ne doit pas contredire. Déjà, dire que ce qui est écrit dans les livres saints, bah, c'est pas normal, c'est un peu bizarre d'avoir plusieurs femmes, c'est un peu bizarre de faire ça. C'est pas facile, mais il faut avoir ce recul et se dire, mais au final, qu'est-ce qui est bon pour mon enfant? Est-ce que c'est vraiment rester dans ce truc où même moi, ça m'a fait du mal? Ou essayer de déconstruire et aller de l'avant pour le bien de notre enfant?
Ouais, mais ça vient se confronter à l'idée que, quelle que soit la religion, la fornication, c'est banni. En parler, autoriser, accompagner, c'est quand même inciter la possibilité de faire et refaire. Ce qui est complètement en inadéquation avec certaines valeurs, ce qu'on peut comprendre en plus. Du coup, c'est comment trouver l'approche pour ne pas aller à l'encontre des croyances des uns et des autres, mais juste dire qu'à un moment donné, bah, faut quand même mettre en mots. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, en espace parentalité, je disais, le temps que tu passes à gronder ton enfant parce qu'il est passé à l'acte, alors que tu as tout fait pour que ça n'arrive pas, éducativement parlant, religieusement parlant, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ça veut dire que tu peux monter, tu peux descendre, tu peux le bannir, c'est fait. L'acte, il est là, il est posé. Mmh. Mais par contre, tout le temps que tu passes à lui crier dessus, à le maudire, à le bannir, c'est du temps où tu veilles pas à sa sécurité, c'est du temps où tu vérifies pas qu'il n'y ait pas une maladie qui soit passée par là, c'est le temps que tu vérifies pas à ce qu'elle comprenne pourquoi il faut qu'elle se respecte, pourquoi il faut que ça soit fait sous certaines conditions, etc. Et du coup...
On revient encore un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, la safe place où on peut parler, communiquer avec nos parents et que nos parents ne soient pas butés sur la question et qu'on n'ait pas peur d'aller en parler aux adultes, à nos parents. Je trouve ça hyper important, l'écoute parentale par rapport à la sexualité. Et les parents qui ne sont pas à l'aise avec la question de la sexualité, qui ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes, je pense qu'il est important à un moment donné de faire l'effort, petits, grands efforts, de se remettre en question, de garder l'esprit ouvert. Je sais pas, on arrive bientôt en 2025, à un moment donné, tu as décidé d'être parent. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi aussi, tu es passé à l'acte. Voilà.
Il y a des parents qui sont, parents qui sont dans les années 50 encore, dans leur tête.
Skip. Hein. Oui, mais justement, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Il faut absolument arriver à garder une certaine ouverture d'esprit en 2025. Arriver à garder cette ouverture d'esprit pour que ton enfant puisse te parler de sexualité sans avoir peur d'être disputé. Non, on parle pas de ça. Enfin, faut pas que ce soit tabou, parce que c'est quand c'est tabou que ça devient mystique. Et justement, il faut démystifier ce truc là
et ça devient même
une fois que c'est démystifié, une fois que c'est démystifié, l'enfant, il a toutes les réponses, s'il a pas toutes les réponses, il sait qu'il peut venir te voir et discuter avec toi, et tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses toi aussi en tant que parent et adulte. Tu peux lui dire ça, je sais pas, je peux me renseigner, mon chéri, je reviendrai vers toi, etc., ou ma chérie. Voilà.
Ou l'emmener chez des professionnels.
Exactement.
C'est super que tu prennes la parole, Fatih, parce que du coup, toi, tu es artiste et art-thérapeute, donc tu as aussi, tu es engagée en plus contre les violences faites aux femmes.
Oui.
Et tu slams, donc tu fais appel à la culture aussi pour passer des messages forts.
Oui.
Amal, tu as écrit un ouvrage aussi pour expliquer aux enfants toutes ces choses qui ne sont pas forcément dites de façon aisée dans les salons. Elle a des ateliers.
Et moi, je fais rien.
Si. Attends, j'arrive. Elle a des ateliers, justement, elle le disait tout à l'heure, où la parole est libre et les questionnements peuvent aussi prendre place avec des réponses aussi adaptées pour changer un petit peu les choses et inverser le... Peut-être tout à l'heure, on disait la honte doit changer de camp. Peut-être que la pudeur aussi, un peu. Et Anne, à travers les ateliers jeunesse et parentalité que tu fais, il y a aussi un espace pour aborder justement toutes les thématiques liées à l'être humain. Donc du coup, ça en fait partie. Juste...
On s'est bien trouvés, hein, tous, là.
On s'est bien trouvés, on a fait une table de saltimbanque. Tout à l'heure, on a abordé le trauma par le prisme de l'inceste, des agressions sexuelles. Mais il y a d'autres traumas, et du coup, c'était intéressant peut-être aussi que Fatih, tu puisses témoigner rapidement sur le style de violence que toi, tu as pu rencontrer. Parce qu'on disait, y a les souffrances, il y a les violences qui ne se passent pas forcément par des coups. Il y a celles dont tu as parlé, donc violence conjugale, inceste. Mais il y a d'autres violences aussi qui sont là et qui méritent de trouver leur espace pour que chaque auditeur, chaque famille, chaque enfant qui écoutera ce podcast puisse se dire, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, c'est là, ça existe et on peut essayer de changer les choses. Oui. On t'écoute, Fatih.
Moi, étant petite, j'ai été victime de ce qu'on appelle l'excision. Donc, c'est une ablation des parties génitales. Donc, clairement, il y a plusieurs formes d'excision. Mais moi, clairement, sectionner le clitoris et les lèvres. Et du coup, ça a provoqué un certain traumatisme chez moi. J'ai aussi été battue par mon père. Bon, aujourd'hui, nos relations se sont apaisées, hein. Mais ouais, ça m'a aussi beaucoup marquée à plusieurs niveaux. Et l'art m'a permis de guérir quelque part, parce qu'aujourd'hui, ben, je suis artiste slam, donc j'écris des textes, je les interprète, je suis comédienne, je suis art-thérapeute, j'anime des ateliers d'écriture thérapeutique, des ateliers de danse-thérapie, etc. Donc vous pouvez retrouver toutes ces infos sur mes réseaux sociaux, donc Fatih Comédienne, Fatih avec un I et non avec un Y, Fatih Comédienne. Et ouais, tous ces traumatismes-là aussi ont un rapport avec l'éducation. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, je sais que je commençais à taper un petit peu mon fils. Parfois, une petite claque, des fessées. Je criais très fort, mais c'est parce que c'était la représentation de ce que je connaissais, en fait. Donc, je suis restée sur cette zone de confort à reproduire l'éducation que moi, j'avais eue. Et je ne sais pas, à un moment donné, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça que je veux pour mon enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais, dans ce que je fais subir à mon fils. Et à partir de là, j'ai commencé à faire un travail sur moi et à m'auto-éduquer à devenir parent. Voilà, donc j'ai lu pas mal d'ouvrages. Et puis après, y a la volonté aussi. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut se remettre en question sur nos pratiques, sur ce qu'on fait, que ce soit par rapport à l'éducation ou à d'autres choses. Se remettre en question et se poser la question à savoir est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ou d'une meilleure façon?
Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose de... Merci pour ce témoignage, Fatih. L'idée, c'est aussi que... un maximum de personnes puissent se reconnaître aussi dans les parcours et les parcours de résilience. Tu as dit, au début, quand j'ai eu mes enfants, forcément, au début, j'ai tapé. On reproduit souvent ce qu'on a connu. Et même quand on essaye de faire autrement, dans les moments de tension extrême, dans les moments de stress ou d'énervement, notre cerveau, il va aller chercher ce qu'il connaît le mieux. C'est-à-dire qu'il faut, avoir le temps de prendre du recul pour ouvrir le troisième tiroir en se disant « Ah non, moi, on mettait une baffe, mais non, en fait, là, il ne faut pas mettre une baffe, il faut aller chercher. » Et du coup, c'est intéressant que tu aies dit ça parce que pour le coup, ça se vérifie sur la violence physique, psychique, mais aussi sur toutes ces questions liées à l'inceste et aux agressions sexuelles. C'est-à-dire, si on m'a abusé à répétition, eh ben, c'est tout un processus d'inverser les choses pour ne pas nous-mêmes reproduire ce qu'on a vécu. Et c'est important parce qu'on parlait d'éduquer nos enfants. Donc, comment briser ce continuum de violence transgénérationnelle lorsqu'on devient parent? Un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est-à-dire parce qu'on en parle, parce qu'on conscientise, parce qu'on en a... parce qu'on on essaye en tout cas de trouver des professionnels qui nous accompagnent. Et lorsqu'on a des enfants et qu'on éduque nos enfants, on est en alerte. On est tout le temps en alerte. Parce que on le sait. Si on ne fait pas attention, ça revient, ça revient. Et puis, nos enfants questionnent. Et on le disait tout à l'heure, pour la sexualité, mais ce n'est pas que pour la sexualité. C'est rapport à moi. Où j'en suis, moi. Quand mon enfant pose un acte, que ce soit un acte de délinquance, un acte de désobéissance ou peu importe, c'est où j'en suis, moi, face à l'acte qu'il est en train de poser.
C'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, parfois, au lieu d'ouvrir le premier tiroir, il faut que tu conscientises et que tu te dises « non, ce n'est pas le premier qu'il faut que j'ouvre, mais plutôt le troisième ». Et à force de te le répéter qu'il faut que tu ouvres le troisième tiroir, le troisième tiroir va finir par devenir ton premier tiroir. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, il faut sans cesse se dire c'est pas cet acte de violence que je dois poser. Je dois poser à la place un acte d'amour, d'écoute, de compréhension. Voilà. Et à force de se le répéter, on finit par y arriver. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a aidée, c'est vraiment le côté artistique, le fait que j'ai participé à pas mal d'ateliers d'estime de soi, de confiance en soi, qu'aujourd'hui j'enseigne à mon tour. Mais c'est vrai que l'estime de soi et la confiance en soi qui a été brisée durant notre enfance parce qu'on a subi diverses violences et ça nous a ôté tout ça. Il faut récupérer cette estime de soi et cette confiance en soi pour avancer. C'est essentiel et indispensable.
Mais est-ce que pour se guérir, on va être obligé de lever le voile sur des pratiques, je dirais, ancestrales de nos familles ?
Moi, je pense que oui, c'est essentiel. Oui, il faut absolument le faire. Sur les bonnes pratiques, il n'y a pas de souci, on peut laisser. Mais dans nos différentes cultures, dans nos traditions, etc., il y a des choses qui ne sont pas bonnes.
Bah oui,
il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et il faut lever le voile sur ça. Et il faut en parler. Il faut proposer d'autres choses, d'autres alternatives.
Parce que je donne un exemple. Souvent, il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui ont un rapport compliqué avec le côté affection, manque d'affection, qu'elles n'ont pas eu forcément via le papa. Et on peut remarquer que souvent, c'est dû au mécanisme, au fonctionnement de certains papas qui, eux, prennent ce fonctionnement de leur culture, ou en tout cas de leur pratique. Parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière la culture ou la religion, mais en réalité, je pense que c'est plus l'homme qui a interprété certaines choses et qui maintenant l'utilise, en tout cas, mauvais escient pour moi.
Alors, ce que tu veux dire, c'est que certains papas n'ont pas donné d'affection à leurs filles, donc elles sont en recherche.
Exactement, c'est-à-dire que soit ils n'ont pas donné d'affection, ou en tout cas, la manière dont ils pensent la donner, elle n'est pas adaptée.
D'accord. Mais c'est vrai que très souvent, on peut avoir son papa et sa maman, avoir une figure masculine. Mais comme je disais tout à l'heure, la nourriture affective qu'on a reçue n'est pas adaptée. Des papas distants africains, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Et souvent, on peut se retrouver avec des femmes qui ont justement un manque d'affection et qui sont dans la dépendance affective ou tout au contraire sont vraiment dans le rejet. Elles sont des femmes fortes, des femmes qui s'assument et qui ont parfois même des comportements un peu masculins. J'ai pas besoin d'amour, j'ai pas besoin d'affection, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'un homme. Et ça peut poser des problèmes dans le cadre du couple, hein, oui. Hein. Mais dans tous les cas, quand on est enfant, la figure du sexe opposé, c'est quand on est un homme, c'est sa maman. Et quand on est une femme, c'est son papa. Donc oui, il y a des pratiques clairement qu'il faut,
il faut
dénoncer déjà pour qu'on puisse mettre les choses en lumière. Il faut arrêter, quoi.
Parce que moi, je trouve, hein, en tout cas, il y a beaucoup trop de gens abîmés par leurs parents parce que on a peur. On a peur de pointer du doigt certaines pratiques. Parce que tout à l'heure, tu parlais de... on est de génération où taper son enfant avec n'importe quel objet non identifié, c'était... C'était la norme.
Et puis la société, elle juge encore trop sévèrement, en fait... ses failles. C'est-à-dire montrer sa vulnérabilité, on le dit de plus en plus, mais c'est quand même sanctionné très sévèrement encore par la société et le regard des autres. Malheureusement, l'émission touche à sa fin, on pourrait faire un acte 2 sur les violences, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais si vous pouviez transmettre un seul message ou conseil aux parents qui se battent avec leurs blessures, quel serait-il, Fatih?
Je pense qu'il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, arriver à se remettre en question. Vraiment, accepter d'être vulnérable, s'interroger profondément, faire une introspection, ne pas se mentir. Voilà, vraiment réussir à se regarder de façon très sans mensonge face au miroir et se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? C'est déjà un bon début.
Merci à Fatih. Aman ?
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est aux parents, aimez-vous. Et aimez vos enfants du plus profond de votre cœur. Parce que c'est ce qui pourra leur permettre plus tard d'être... c'est ce qui favorisera en fait la résilience de leurs enfants.
Merci Aman. Barbeux ?
Non, moi, c'est la démonstration. En fait, il faut montrer. Parce que souvent, y a des gens qui disent « Ouais, mais mon enfant, il sait que je l'aime. » Non, il ne sait pas. Parce que tu ne lui montres pas.
Être dans la démonstration de l'amour.
Donc moi, il faut vraiment être dans la démonstration, la démonstration de l'amour, de l'affection, qu'il y ait des gestes, qu'il y ait des attitudes, qu'il y ait des mots, c'est important.
Elvira ?
Alors moi, je dirais déjà en tant que parent, être indulgent avec soi-même déjà et pouvoir regarder ce qui s'est passé dans le passé en face et se dire oui, j'ai été victime, il y a eu une défaillance dans mon éducation et je ne veux plus ça pour moi, quoi. Mais c'est des choses qui se font, ça met du temps. Il faut être indulgent avec soi-même.
Ça met du temps, merci. Moi, ce que j'aimerais dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que nul n'est parfait. Et que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. C'est un long processus et des fois, on ne peut pas soulever le couvercle parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer et à survivre. Il y a des gens qui, quand ils ouvrent le couvercle, c'est tellement... dur, c'est tellement inacceptable, c'est tellement que c'est compliqué. Donc des fois, on sait qu'on a mal, on sait qu'il nous est arrivé quelque chose. D'attendre le bon moment pour faire au mieux, de se faire accompagner, de ne pas hésiter à fréquenter des espaces de parents, des espaces où les adultes se rencontrent et discutent, parce que peut-être que petit à petit, le cheminement commence par là. D'aimer vos enfants. D'être indulgent avec vous-même et surtout de ne pas s'en vouloir, de s'est louper. Ce qui compte finalement, c'est d'essayer de mieux faire, c'est de conscientiser qu'on a mal fait, prendre du recul et réparer quand il y a à réparer. Réparer ce qu'il y a à réparer et ne mettez pas sous le tapis. Je pense qu'il y a des auditeurs qui peut-être ne sont pas fiers de certaines choses qu'ils font au quotidien et au lieu de mettre sous le tapis, et du coup, là, vous créez une souffrance et un trauma chez vos enfants. Trouver des professionnels qui ne sont pas dans le jugement. Et c'est notre boulot à nous aussi, d'accompagner des parents qui ont posé des actes dont ils ne sont pas fiers, mais de les accompagner à ne pas empirer la situation. C'est-à-dire, l'acte, il est posé, on n'est plus dans le jugement, on est dans l'accompagnement, dans la mise en sécurité. Et des fois, de mettre en sécurité son enfant, c'est la plus belle preuve d'amour. Merci à vous quatre, merci à Mon Paris FM. Vous retrouverez cette émission mercredi soir sur les ondes de Mon Paris FM et ensuite sur toutes les plateformes de streaming. Est-ce que pour juste avant de nous quitter, vous avez des petites actualités ? Toi, ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver ?
Alors, mon livre est chez les éditions Comme il faut. Donc, c'est un petit ouvrage qui parle de mon histoire, mais à travers des personnages imaginaires.
Très bien, merci Amal. Fatih, actualité ?
Alors, moi, il y a mon titre qui s'intitule « Ce fameux matin » qui est sur toutes les plateformes de streaming. Et je serai sur scène le samedi 14 décembre pour un bal de charité. Je ne sais plus, je crois que c'est Hoche, à Paris. Vous retrouverez toutes les actualités sur mes réseaux sociaux, Fatih Comédienne.
Merci Fatih. Elvira, actualité.
Alors, au niveau des actualités, donc tous les mois, j'anime des cercles de femmes. Donc, vous pouvez retrouver ça sur mes réseaux sociaux. Jeudi, il y a Conversation au féminin avec Angéline Simon, du coup, où on va parler de plaisir au féminin. Le 5 janvier, je suis avec la Woman Camp Academy où j'anime un atelier sur la sexualité féminine. Et j'ai mes ateliers qui vous pouvez trouver les dates sur Instagram. Voilà.
C'est quoi ton Insta ?
C'est Elvira Douala, TCC Thérapie.
On mettra tout ça en bio. Anne, des actus ?
Non.
Berger ?
Non.
Il n'y a rien à écouter ?
Si, il y a le concept Le Berger et le Vieux Père qui... Il y a maintenant deux épisodes. On vient de sortir un épisode hier avec Mbeko Tabula et Herman Wanda. Donc voilà. Et il y a plein de choses qui vont arriver un peu plus tard.
Eh bien, merci à tous. Merci encore à Mon Paris FM et à plus tard. Ciao.